D'un point de vue militaro-technique, nous sommes bien sûr prêts. Les troupes russes sont constamment en état de préparation au combat. C'est la première chose. Deuxièmement, et c'est aussi une chose généralement admise, notre triade, la triade nucléaire, est plus moderne que n'importe quelle autre triade. Nous sommes les seuls avec les Américains à disposer d'une telle triade, et nous sommes beaucoup plus avancés dans ce domaine.
Et il y a une autre guerre que la Russie veut gagner, c'est la guerre de communication. Le Kremlin est devenu expert en désinformation. L'objectif, c'est notamment d'influencer et de déstabiliser les Occidentaux. On voit cela.
Le lit ont envahi Paris. C'était à l'automne dernier. Un scandale qui est sorti de nulle part. Quelques vidéos sur les réseaux sociaux ont suffi à créer une polémique, presque une panique.
Ben moi, ça m'a stressé parce que ce matin, je devais prendre le train et je me suis demandé si j'allais en trouver. Donc ça m'a un peu refroidi.
Aujourd'hui, on sait que la rumeur a été largement colportée par de faux profils en ligne créés en Russie. Une infestation inventée ou exagérée pour nuire à la France.
La France est un des pays qui attire le plus de touristes au monde et qui a obtenu les Jeux Olympiques. Et donc une façon d'embêter ce pays, qui compte beaucoup sur ses revenus du tourisme, c'est de faire croire en fait que si vous allez dans le pays, il va vous arriver des bricoles.
Et les exemples se multiplient. Emmanuel Macron, visé par une tentative d'assassinat en Ukraine, avec cette vidéo, un faux journal français qui annonce la nouvelle. Et au début de la guerre en Ukraine, cette image du président ukrainien circule. Volodymyr Zelensky démissionne et se rend. C'est évidemment un montage grossier préparé en Russie. En 2016, Donald Trump est élu président des États-Unis. Ses opposants l'accusent d'avoir profité de campagnes de désinformation orchestrées par la Russie. En 2024, année d'élections aux États-Unis, en Europe et en Belgique, c'est l'apparition des images construites par intelligence artificielle qui inquiète. La technologie controversée fait des progrès.
On pourrait imaginer, lors des prochaines élections belges, Poutine dans sa voiture qui serre discrètement la main du Premier ministre. Scandale, le Premier ministre belge a négocié avec le tyran venu de Russie. Les conséquences pour lui au moment des élections seraient catastrophiques, alors qu'en fait cette photo ou cette vidéo n'a jamais existé. On en est là avec l'intelligence artificielle à l'heure actuelle.
Avec des élections un peu partout, cette année sera particulièrement à surveiller. La désinformation russe pourrait s'amplifier et venir aussi d'autres pays.
C'est donc demain et puis tout le week-end, si on peut encore appeler ça évidemment des élections. On l'a dit, Vladimir Poutine n'a pas fait campagne et il n'a pas d'opposant crédible. Le président russe se présente pour un cinquième mandat donc à la tête de son pays. Et après deux ans de guerre en Ukraine, qu'en est-il de sa position sur la scène internationale? C'est la question sur cette question des relations internationales de Vladimir Poutine avec l'équipe Décrypte. C'est à retrouver sur le site RTBF. Actu, est-ce que Vladimir Poutine est devenu un paria comme le voulait l'Occident lorsque Poutine a envahi l'Ukraine?
Alors, si l'on en croit l'album photo 2023 de Vladimir Poutine et de son ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, la réponse est non. On y voit le président russe trinquer avec le président chinois à Moscou, lui serrer la main à Pékin, dans un grand éclat de rire avec Mohamed Ben Salman en Arabie Saoudite, ou encore entouré de représentants africains à Saint-Pétersbourg. Le président russe est visé par un mandat d'arrêt international pour la déportation d'enfants ukrainiens. Il n'est donc pas tout à fait libre de ses mouvements, mais il a pu se rendre dans des pays qui ne reconnaissent pas la Cour pénale internationale. Il a reçu chez lui, et puis son ministre des Affaires étrangères a joué les émissaires. Il a notamment fait 3 tournées en Afrique et 1 en Amérique du Sud.
Bon, le président peut encore compter sur de nombreux alliés.
C'est en tout cas ce que Vladimir Poutine veut faire croire. Mais comme toujours, quand on sort de la simple propagande, la réalité est plus nuancée. Si on écoute les discours de Poutine et de Lavrov, on a l'impression d'un grand camp, vaste et uni derrière la Russie, opposé à l'Occident et désireux d'un nouvel ordre mondial multipolaire. Mais les pays non occidentaux, les pays du Sud, ne sont pas tous supporters de Poutine et de sa guerre. Écoutez Jean de Glignasti, ancien ambassadeur français à Moscou et directeur de recherche à l'IRIS.
Les pays du Sud considèrent que ce n'est pas leur guerre, que c'est une guerre de blanc, qu'ils doivent gérer leurs intérêts. Et ils sont très sensibles au thème de Lavrov sur l'apparition un monde multipolaire. Donc ils considèrent qu'ils sont légitimes à défendre leurs intérêts et à ne pas suivre les Occidentaux. Mais on ne peut pas considérer ça comme des alliés de la Russie nécessairement.
En fait, il est plus facile de compter les ennemis de Poutine que ses amis. Ses ennemis, pour faire simple, ce sont ceux qui lui infligent des sanctions. En gros, c'est l'Occident.
Voilà, la liste des ennemis du président russe, elle est facilement faite. Du côté de ses amis, du coup.
Mais donc, du côté de ses amis, c'est plus complexe. Mm-hmm. La Russie n'a pas d'alliés au sens propre engagés sur le terrain en Ukraine avec elle. Mais il y a quand même la Biélorussie qui lui sert de base arrière, et l'Iran et la Corée du Nord qui lui fournissent des armes. Et puis, il y a aussi les pays qui ont voté en son sens lors des différents votes à l'Assemblée générale de l'ONU, et qui ont donc voté contre la condamnation de l'agression russe en Ukraine et contre la demande d'un retrait des troupes. Parmi ceux-là, on retrouve, lors du dernier vote, la Biélorussie, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie, soit autant d'États autoritaires dont certains dirigeants doivent leur survie politique à Moscou. Et parmi ceux qui se sont abstenus, comme la Chine, l'Inde et pas mal d'États africains, et même parmi ceux qui ont émis des votes défavorables à la Russie, soit la grande majorité, on trouve aussi certains pays qui, disons, sont assez tolérants face à Moscou. Des pays qui, comme le disait Jean de Blignasty, suivent leur propre intérêt au cas par cas et ne s'empêchent donc pas, malgré leur vote, de commercer avec la Russie, par exemple.
Et là, c'est peut-être un autre indice qui peut nous aider à y voir plus clair. Les pays qui commercent avec la Russie, ceux qui l'aident à contourner les sanctions, la soutiennent d'une certaine manière.
Mais en tout cas, ce sont des partenaires économiques qui, au final, indirectement, l'aident à financer la guerre. Après la mise en place des sanctions, on a observé une réorientation du commerce russe de l'Occident et notamment de l'Europe vers d'autres pays. Karl Grécou, économiste au CPI, un centre français d'études sur l'économie internationale, l'a observé.
On a vu un tournant significatif du commerce russe vers essentiellement les pays, je dirais pour rien tout, la Turquie, l'Inde. Et la Chine étaient les principaux pays à fournir des échappatoires vraiment à la Russie.
Alors la Chine en particulier est doublement gagnante. D'un côté, elle importe du pétrole russe bon marché, et d'un autre côté, elle inonde le marché russe avec ses produits.
La Chine, c'est le grand partenaire stratégique de Moscou.
Ben oui, les photos de l'album 2023 sont là pour en attester. La Chine n'a jamais condamné l'invasion russe en Ukraine. Elle reprend même le narratif russe qui pointe la responsabilité de l'OTAN. Mais en observant le cliché de l'arrivée de Poutine à Pékin, Thierry Kellner, spécialiste de l'Asie à l'ULB, souligne que le diable est dans les détails.
La dernière visite donc de M. Poutine en Chine, il était accueilli sur le tarmac, non pas par Xi Jinping, mais par le ministre du Commerce. Ce qui montrait bien que la Chine mettait l'accent en fait sur le caractère entre guillemets commercial normal des relations entre les deux.
La relation entre les deux est en fait de plus en plus asymétrique. Certains chercheurs parlent même d'une vassalisation de la Russie par la Chine. D'autres contestent, disent que c'est une façon pour nous occidentaux de nous rassurer et que la Russie compte bien rééquilibrer ses rapports de force une fois la guerre en Ukraine gagnée et une fois l'Europe réduite à l'état de petit cap occidental d'une grande Russie dominée par la Russie et la Chine. Voilà, nous voilà prévenus.
Ouais. Encore faut-il qu'elle gagne la guerre, la Russie.
Évidemment.
Évidemment. Qu'en est-il en Afrique, Daphné? On en a beaucoup parlé, notamment à la mort d'Evgeny Prigogine, le chef du groupe Wagner, une société militaire privée russe qui est très présente, on le sait, sur le continent africain.
Oui. En Afrique, la Russie consolide sa présence. Elle comble le vide laissé par le retrait français dans le Sahel. Et on sait qu'elle ne se prive pas d'attiser l'anticolonialisme. Elle a par ailleurs continué à signer des accords de coopération militaire, avec notamment dernièrement le Niger ou le Burkina Faso. Et le groupe Wagner, qui menait donc des opérations militaires, des opérations de déstabilisation, de désinformation, tout en s'assurant l'octroi de concessions minières, n'a pas vraiment souffert de la mort de son chef, si l'on en croit Père de Jong, ancien colonel français, auteur d'un livre sur les sociétés militaires privées.
Non, au contraire, ça s'est structuré, ça s'est même organisé. C'est même beaucoup plus performant, parce qu'avant, c'était Wagner qui gérait en direct dans une opération préliminaire. Là, maintenant, les Russes ont mis la grosse machine en route, la machine diplomatique, la machine économique, la machine militaire, etc. Donc, en fait, tout le système russe, aujourd'hui, s'engage massivement en Afrique.
Alors, est-ce que ça veut dire, du coup, que ces pays africains sont des obligés de la Russie, forcés à la soutenir inconditionnellement? Pour Père de Jong, c'est encore trop tôt pour le dire.
Bon, on le voit donc, conclusion, Daphné, que ce soit en Afrique ou en Asie, la Russie n'est pas... pas isolée dans le monde.
Non, ni en Amérique du Sud non plus. En Asie centrale, elle perd un peu de son influence. Son image s'est érodée suite à l'invasion en Ukraine, mais ces pays restent toutefois prudents face aux grands voisins russes. Globalement, en fait, c'est en Occident que la Russie est un paria. Un mur s'est redressé entre elle et l'Ouest. Mais dans le reste du monde, au-delà de ses relations plus étroites avec l'Iran, la Corée du Nord ou même la Chine, elle bénéficie de complaisance ou de rapports intéressés qui lui sont bien utiles en ces temps.
Vladimir Poutine qui a appelé hier les Russes à s'unir pour déterminer l'avenir de la Russie en votant dès demain 3 jours d'élection présidentielle, mais dont on connaît déjà le résultat. Vous l'avez dit, Daphné Van Hossen, merci beaucoup pour ce